Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Hermine Roumilac de la rédaction chinoise concernant les relations entre la Chine et l'Europe. Pour la rédaction en espagnol, Asbel López.
Hola.
Pour nous parler de l'extrême droite qui marque des points au Chili. Et Denis Strelkov de la rédaction russe pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Mais ce qui fait la une de l'actualité tout d'abord, c'est l'élection présidentielle en Turquie après-demain avec cette question, Erdogan va-t-il rester au pouvoir ? En effet, après 20 ans de pouvoir, le président turc est désormais fragilisé et l'opposition est renforcée. Alors Asbel López, tout d'abord, votre correspondant à Istanbul pointe la force de cette opposition à l'avant-veille du scrutin.
En effet, Andrés Mourenza, notre correspondant en Turquie, a une expression qui résume l'état d'esprit de l'opposition turque. Écoutons-le.
La oposición turca concurre a estos comicios más unida que nunca. La mayoría de partidos contrarios al creciente autoritarismo de Erdogan, desde la derecha nacionalista turca a la izquierda prokurda, apoyan al centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu.
Alors, quelle est cette expression ?
Selon lui, l'opposition turque arrive aux élections de dimanche plus unie que jamais. C'est l'autoritarisme croissant d'Erdogan qui explique cette union qui va de la droite nationaliste à la gauche pro-kurde. Ils se sont tous rassemblés derrière la bannière du centriste Kemal Kılıçdaroğlu, le favori. Il est en tête, mais seulement avec 2 à 3 points d'avance sur Erdogan. Andrés Mourenza souligne également que l'image du gouvernement d'Erdogan a été ternie après le séisme de 7,8 en février dernier qui a frappé la Turquie. 50 000 personnes sont mortes et près de 3 millions de Turcs ne vivent plus chez eux, mais dans des tentes et des baraques, parfois à côté de leurs immeubles détruits.
Et justement, certains accusent le gouvernement d'inaction face à ce drame et c'est ce qui peut lui coûter cher après-demain.
Oui, il y a l'incertitude, l'anxiété, le doute et la tension quant à l'issue du scrutin se font sentir dans les rues du pays. Parmi les 85 millions d'habitants, beaucoup ont envie de changement. Andrés Mourenza, notre correspondant, a interviewé 3 femmes au foyer qui lui ont expliqué pourquoi elles allaient voter contre le président sortant Erdogan.
Alors pourquoi vont-elles voter pour l'opposition et contre Erdogan ?
Elles se plaignent de ne pas avoir assez pour nourrir leurs enfants ni pour leur permettre d'aller à l'école. L'une d'elles souhaite que le pouvoir actuel dégage, car cela fait trop longtemps qu'ils sont aux manettes. Mourenza précise que la réaction d'Erdogan a été d'accuser l'opposition de s'allier avec les terroristes. Durant sa campagne, il a exacerbé le sentiment nationaliste et promis de l'or, du gaz et du pétrole grâce à des nouveaux gisements supposés. Il promet également que le pays sera ainsi plus autonome. Il a annoncé la livraison de nouveaux modèles de tanks, d'avions de chasse, d'hélicoptères et de porte-avions. À ce propos, Andrés Mourenza a interviewé un sympathisant d'Erdogan, un fonctionnaire. Voilà ce qu'il a dit.
Tuzla'da mesela 2 soğan değil 1 soğan da yeseniz yemeğinize katkı olarak yapabilirsiniz. 4 tane patates değil de 1 patatesle 2 patatesle de yemek yapabilirsiniz. Ama böyle bir geminiz olmazsa kendinizi savunamazsınız.
Que dit ce pro-Erdogan?
Son raisonnement est le suivant. Si vous mangez 2 pommes de terre au lieu de 5 ou 2 carottes au lieu de 5, vous n'allez pas mourir de faim. Vous serez toujours en vie. Par contre, sans un porte-avions, sans avion de chasse, la Turquie ne pourrait pas se défendre. Il faut des armes au prix de ne pas manger assez. Pour notre correspondant, Erdogan suscite autant de haine que d'amour parmi les Turcs. Le président sortant pourrait trouver son salut dans sa traditionnelle base de soutien, la classe ouvrière. Certains observateurs avancent qu'il pourrait s'accrocher au pouvoir et même utiliser des ressources étatiques pour s'assurer une victoire étroite ou contester une défaite serrée. Tout est donc possible lors des élections de dimanche prochain.
Et ce scrutin s'est suivi et sera suivi, bien sûr, de très près un peu partout dans le monde, mais notamment en Russie, de Nesterelkov, puisque la Turquie est l'un des partenaires clés de Moscou dans la région. Et Moscou craint qu'une victoire de l'opposition puisse bouleverser les choses.
Effectivement, à Moscou, on regarde depuis longtemps avec beaucoup d'attention sur ce qui se passe en Turquie. C'est d'autant plus vrai en temps de guerre, quand les relations russes avec d'autres pays sont extrêmement tendues. Pendant que M. Erdogan était au pouvoir, les échanges entre Ankara et Moscou se sont intensifiés. Il y a eu, par exemple, la construction de la centrale nucléaire d'Akyu dans le sud du pays avec l'aide de l'agence russe Rosatom. C'est un projet gigantesque qui coûte plusieurs milliards d'euros et qui est devenu symbolique, pas seulement pour la Russie, mais aussi pour Erdogan lui-même. Une fois fonctionnelle, elle fournira 10% de l'énergie nécessaire pour le pays. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont inauguré la construction ensemble il y a 4 ans. Et en Russie, on ne le cache pas, le Kremlin a une préférence pour les résultats de ces élections. Ça veut dire Poutine lui-même qui l'annonçait, on l'écoute.
Мы со своей стороны такой настрой безусловно поддерживаем и убеждены, что тесное сотрудничество, партнерство России и Турции носит взаимовыгодный характер.
Que déclare le président russe?
On est content de la collaboration entre la Russie et la Turquie. La construction de la première centrale nucléaire et la création à partir du zéro d'une nouvelle industrie de pointe est un autre exemple convaincant de tout ce que vous, monsieur le président, faites pour votre pays, pour la croissance de son économie, pour tous les citoyens turcs. Je vais le dire sans détour, vous savez, vous fixez des objectifs ambitieux et vous avancez avec confiance vers leur mise en œuvre. Ce sont des mots prononcés il y a quelques jours et seulement par le président russe, et il faut le dire, c'est aussi pour apporter un peu de soutien à Erdogan qui est loin d'être sûr de gagner les élections.
Oui, d'autant que l'économie turque est minée par une inflation galopante, une monnaie qui s'est effondrée, des conditions de vie de plus en plus difficiles, et cela pèse aussi dans la balance en accentuant le ressentiment de nombreux Turcs à l'endroit d'Erdogan.
Effectivement, la crise économique inédite qui frappe le pays en ce moment même est la principale responsable de cette situation. La dépréciation de la livre turque est historique, l'inflation s'approche à 100% sur l'année et les difficultés économiques en Turquie se sont apparues bien avant le début de l'invasion russe en Ukraine, même si c'est vrai, la guerre a contribué à la hausse de prix. Mais M. Erdogan est un homme politique qui a su profiter en quelque sorte de la guerre en Ukraine. Il n'a jamais été réellement ni pour l'un ni pour l'autre.
Alors l'Ukraine justement, Denis Strelkov, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière et à l'année 2014.
Effectivement, c'est l'année de l'annexion de la Crimée, si vous vous souvenez bien. La Turquie est l'une des rares pays qui accepte de vendre ses drones à l'Ukraine. Il s'agit des drones Bayraktar qui sont devenus aujourd'hui un symbole de la résistance ukrainienne. Erdogan a fait en sorte que, dans les yeux des Ukrainiens, il était un partenaire fiable qui proposait des solutions pour reprendre le contrôle de la Crimée, pour proposer d'organiser des conférences internationales pour en parler, mais ça n'allait jamais plus loin et en même temps, les échanges commerciaux et politiques sur l'axe Ankara-Moscou n'ont pas été affectés.
Alors ça, c'était il y a 9 ans et depuis, il y a donc cette offensive russe en Ukraine.
Oui, à cette date, le 24 2022, la politique en Europe a basculé, mais à Ankara, Erdogan en a vu une chance à saisir. Son but, augmenter son influence à l'international et résoudre des problèmes économiques. On l'a vu notamment avec l'accord sur les céréales, mais aussi gagner en popularité à l'intérieur du pays. Le soutien militaire turc à l'Ukraine est donc considérable. En octobre, la première corvette Milgem turque, c'est un navire militaire pour la marine ukrainienne a été mise à l'eau. Le navire sera le plus grand de la flotte ukrainienne, imaginez-le. Et cela sans parler du fait que Zelensky lui-même porte un gilet pare-balles fabriqué en Turquie. C'est le gérant de l'usine qui l'a fabriqué qui lui dit. Mais en même temps, la Turquie se propose en tant que méditateur. Les sanctions contre la Russie, Ankara, refusent de les appliquer. Et l'Europe et les pays de l'OTAN ils ne peuvent pas pousser la Turquie à le faire car ils n'ont pas tout simplement des moyens. Le positionnement géographique et politique de la Turquie sont unique dans ce contexte. Erdogan en profite, mais apparemment, vu la crise dans le pays, ça ne suffit pas pour être sûr de remporter les élections.
Autre chose, Denis, les présidents russes et turcs sont assez proches, et c'est dans ce contexte que le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan, qui est Kemal Kılıçdaroğlu, accuse Moscou d'ingérence dans cette élection présidentielle.
Effectivement, chers amis russes, vous êtes à l'origine des montages, des conspirations, des faux et des instruments qui ont été révélés hier dans ce pays. Si vous voulez notre amitié après les élections, ne déchez pas à l'État turc. Ce sont des mots de cet opposant clé à Erdogan, c'est lui qui l'a prononcé. Il dit notamment qu'après, Erdogan a montré à ses électeurs une vidéo avec cet opposant et le chef de la partie kurde qui est considéré comme l'organisation terroriste en Turquie. Les journalistes ont bien vérifié, il s'agit d'un fake news, d'une vidéo montée ou deepfake, donc vidéo créée par intelligence artificielle. Les autorités russes, pour l'instant, démentent fermement leur implication.
Et la Chine dans tout cela, Ermine Roumilak, Pékin regarde également de très près ce qui se passe en Turquie.
Hein. Oui, il n'y a pas d'élection de ce genre en Chine, mais la Chine n'est pas non plus indifférente à tout ça. Et on peut dire tout ce qui ressemble se rassemble, n'est-ce pas? Donc, sans le dire clairement, la presse chinoise penche pour le président sortant. Mais il semble que Pékin n'est pas non plus tout à fait sûr de son choix. Donc, le nœud principal vient de problèmes du peuple ouïghour de Xinjiang. Plus précisément, la politique à prendre vis-à-vis de ce peuple en Turquie. Donc, Ouïghours, ils sont majoritairement musulmans. Et depuis une dizaine d'années, la communauté internationale accuse à Pékin de réprimer ce peuple, notamment en les enfermant plus d'un million dans les camps, on peut dire, de concentration ou de rééducation, selon les termes, que le gouvernement chinois appelle centre de formation professionnelle. Bien sûr, Pékin a nié toutes les accusations internationales vis-à-vis de ce peuple. Et en effet, les Ouïghours et les Turcs en Turquie ont les mêmes origines. Et d'ailleurs, la Turquie a toujours été à la tête du peuple turc du monde et a accueilli sans condition des personnes d'origine turque du monde entier, notamment les Ouïghours de Xinjiang qui ont fui le régime chinois. Donc, selon un sondage, il y a 53% de peuple turc estime que le gouvernement n'a pas réagi de manière adéquate au traitement réservé aux Ouïghours qui venant de la Chine.
Alors justement, maintenant, quelle est la position du gouvernement turc vis-à-vis de ces Ouïghours?
Oui, on revient un peu dans l'histoire. En fait, en 2009, le président sortant Erdogan, il était à l'époque le premier ministre, il a critiqué la politique de Pékin à l'égard des Ouïghours de Xinjiang, le qualifiant carrément de proche de génocide. Mais après le coup d'État manqué du juillet 2016, l'économie turque s'est fortement détériorée et donc la Chine a profité de ce trou et a accordé à peu près 10 milliards de dollars à la Turquie. Donc, du coup, le président Erdogan a aussi son don vis-à-vis de la Chine. Erdogan s'est également rendu en Chine à plusieurs reprises. En 2017, il est rendu à Pékin pour participer à un grand forum international sur la fameuse forum Nouvelle Route de la Soie. Et dans la même occasion, les deux pays ont signé un accord qui oblige la Turquie d'extrader vers la Chine toutes les personnes recherchées par la Chine pour les accusations criminelles. Donc, en fait, les défenseurs des droits d'homme craignent qu'il y aura des envois vers la Chine des Ouïghours qui ont fui et la Chine. Donc, le site d'information américain a déclaré en 2002 qu'il avait obtenu des documents montrant que le ministère turc de la Justice acceptait la demande d'extradition des Ouïghours formulée par la Chine et que les procédures judiciaires avaient déjà engagées.
Oui, c'est le site d'information Axios et ce sont des chiffres qui concernent 2020.
Oui, 2020.
Est-ce qu'il y a un revirement de ton depuis le début de l'année, Ermine?
Oui, en fait, à la fin de l'année dernière, quand les élections approchent, le ministre turc des Affaires étrangères a adopté une position beaucoup plus tranchée qu'auparavant. Donc, il a parlé de questions de Ouïghours, il a utilisé des mots beaucoup plus fermes et il a admis que les relations entre les deux pays étaient heurtées à la question des Ouïghours. Le ministre a souligné que la demande de la Chine d'extrader les Ouïghours a été rejetée par la Turquie. Il a souligné également que la défense par la Turquie des droits de Ouïghours au niveau international pour des raisons humanitaires a contrarié la Chine et par conséquent affecté les relations entre les deux pays. Donc les analystes disent que ce changement d'attitude est un pur calcul de vote pour les élections puisqu'il y a quand même des dizaines de milliers de Ouïghours qui ont droit de voter dans ce pays.
Et qu'en est-il maintenant de la position de l'autre candidat, donc favori de l'opposition, qui est Kemal Kılıçdaroğlu, qui est donc à la tête d'une coalition d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'informations très précises sur sa position vis-à-vis de la Chine, mais la presse chinoise le prend déjà pour un candidat proche de l'Occident. Donc il n'a pas clairement parlé de questions des Ouïghours en particulier, mais il a clairement indiqué qu'il, s'il sera élu, il établira des relations avec la Russie au niveau institutionnel. Donc si cette déclaration est vraie, il est peu probable, selon la presse chinoise, que l'élection de Kili Daglu nuise aux relations entre la Chine et la Turquie dans les contextes de l'étroite coopération russe-chinoise.
Et ce scrutin présidentiel en Turquie sera bien évidemment à suivre sur toutes les antennes et les sites de Radio France Internationale. Vous écoutez Accent du Monde.
Accent du Monde. Philippe Lecaplain.
Avec la rédaction russe, revenons maintenant sur le défilé militaire du 9 mai à Moscou, sur la place Rouge. Il s'agissait de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela a toujours été une grande fête patriotique pour les Russes, ce 9 mai. Denis Ristalkov, cette année, en raison de la guerre en Ukraine, l'ambiance était très particulière.
Oui, c'est une fête avec des larmes sur les yeux. Voici la réponse de les plus répondus en Russie quand on parle de cette fête historique du 9 mai. On célèbre le jour de la victoire qui marque la fin de la Grande Guerre patriotique. C'était depuis les temps de l'URSS le moment pour les Russes de voir ses grands-parents qui ont combattu dans cette guerre, où ils, s'ils ne sont plus en vie, de les rendre hommage. La rhétorique officielle autour de cette fête il y a une dizaine d'années, c'était qu'on doit faire tout pour que les horreurs de la guerre ne se reproduisent jamais plus en Europe. Jamais. Cette idée était également partagée, y compris par les Européens et les Américains. Je vous donne la liste des invités du défilé militaire en 2005. Allez-y. Sur la place Rouge. Jacques Chirac, George Bush, George Schroeder, Silvio Berlusconi, Kofi Annan et encore plus de dirigeants européens et américains. La liste est donc assez impressionnante et il faut le souligner. Moscou a profité de cette fête du 9 mai et l'utilisait un peu comme un soft power russe pour montrer en Russie pacifique mais avec des muscles pour combattre ceux qui vont l'agresser. Le ton changeait au fil des années. Ce 9 mai, sur la place Rouge, Vladimir Poutine parle de la Russie agressée par l'Occident. La civilisation est de nouveau en tournant décisif. De nouveau, une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. Ce sont des mots de Vladimir Poutine.
Alors, vous citiez un certain nombre de chefs d'État. Cette année, le président russe n'a invité aucun de ses homologues, en tout cas français, américain ou allemands, et ils n'ont pas été les seuls à être absents de cette cérémonie.
Oui, effectivement, même des journalistes français accrédités à Moscou n'ont pas pu assister au défilé, selon mes informations. Pour les chefs d'État, la liste, cette fois-ci, aussi longue, mais j'ai d'autres États. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est là. Pareil pour le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Pareil pour les chefs du Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Donc il y en a 9 à la fin. C'est sont des pays qui faisaient partie de l'URSS à l'époque. Leur présence était annoncée à la dernière minute, quelques jours avant le défilé. Et si on cherche des raisons pour lesquelles leur présence était essentielle pour Vladimir Poutine, il y en a plusieurs. Tout d'abord, montrer à sa population et au monde entier que la Russie n'est pas isolée.
Et puis aussi montrer ses muscles après l'attaque sur le Kremlin l'autre semaine.
Effectivement, en effet, une semaine avant le 9 mai, deux explosions de drones sont survenues au-dessus du Kremlin. Pour Moscou, c'est bien l'attaque ukrainienne qui n'a pas pu être empêchée par les systèmes de défense antiaérienne. La logique de Vladimir Poutine, selon certains experts, est le suivant. Si on rassemble plusieurs chefs d'État sur la place Rouge, impossible de point de vue politique de s'attaquer à ce défilé, ni pour l'Ukraine, ni pour d'autres pays. Difficile de savoir si c'est la réalité, mais le 9 mai, en Russie, cette année-là, s'est passé sans difficulté particulière sous haute surveillance.
Alors, ce défilé, c'est aussi traditionnellement l'occasion pour la Russie de Vladimir Poutine de montrer ses capacités militaires, de présenter ses armes de dernier cri. Sauf que cette année, la parade n'était pas aussi impressionnante que par le passé.
Effectivement. Apparemment, les armes de dernier cri, s'il y en est, sont tous sur le front. Sur la place Rouge, ce n'est qu'un seul char qui a été présenté. Il s'agit de T-34 de l'époque soviétique. 8000 soldats et officiers ont défilé. Là aussi, c'est un peu moins que d'habitude. Est-ce que ce sont les forces de l'armée russe qui sont épuisées ou il y a une autre raison? Ce sont les services de renseignement britanniques qui ont publié leur avis sur ce sujet. Malgré Malgré les lourdes pertes en Ukraine, la Russie aurait pu fournir davantage de véhicules blindés, c'est le point de vue des services de renseignement. Cependant, les autorités se sont probablement abstenues de le faire car elles veulent éviter les critiques internes sur la priorité des défilés sur les opérations militaires. Voici leur avis sur ce sujet assez controversé.
Un défilé étriqué donc. Et puis cette journée du 9 mai a également été marquée par une disparition inquiétante pour certains. Il s'agit de celle d'Alexandre Loukachenko.
Oui, c'est le président biélorusse qui a suscité des polémiques cette fois-ci. Un homme très proche de Poutine était bien présent lors du défilé, mais a manqué le déjeuner avec Vladimir Poutine. Il s'est rendu en urgence à Minsk juste après l'événement sur la Place Rouge. La raison, c'était son état de santé. Il a eu du mal à marcher 300 mètres qui séparent la Place Rouge et la tombe du soldat inconnu. Après le défilé, il était le seul homme politique qui a fait ce trajet en voiturette électrique et pas à pied. Plus tard dans la journée à Minsk, il n'a même pas pu prononcer son discours annuel, ça aussi à l'occasion du 9 mai. C'est le ministre de la Défense qui a parlé à sa place. Mais quel est l'état de la santé du dictateur biélorusse? On l'ignore. Les autorités ne communiquent pas sur ce sujet.
Voilà pour ce qui s'est passé mercredi dernier en plein cœur de Moscou. C'était Denis Strelkov de la rédaction russe. Et maintenant avec la rédaction en espagnol, intéressons-nous à ce qui se passe au Chili, où l'extrême droite est de retour sur la scène politique. Dimanche dernier, le Parti républicain, dirigé par José Antonio Katz, a remporté l'élection d'un conseil chargé de rédiger une nouvelle constitution, obtenant 23 des 51 membres, en tout cas leur suffrage. Or, Asbel López, ce parti ne voulait pas d'une nouvelle constitution, ce qui est pour le moins paradoxal.
En effet, imaginez-vous recevoir le mandat du peuple pour changer une constitution que vous ne voulez pas toucher. Celui qui souhaite la changer, entre autres, c'est Boric, le président de gauche, au pouvoir depuis un an. Pour lui, c'est une énorme défaite. La deuxième concernant le processus de rédaction d'une nouvelle constitution. Car en septembre dernier, un premier projet a été rejeté. Or, Boric soutenait de tout son poids ce premier texte qui aurait fait du Chili un pays avec l'une des constitutions les plus progressistes au monde. Cependant, selon plusieurs observateurs, le texte était trop partisan et militant.
Alors pourquoi est-ce que les Chiliens se sont engagés dans ce processus de nouvelle constitution?
Rappelons quelques dates. Fin 2019, des manifestations violentes ont éclaté. Il y a eu une mobilisation historique contre les inégalités. Un an plus tard, en 2020, près de 80% des Chiliens se sont prononcés en faveur de la rédaction d'un nouveau texte fondamental. La classe politique chilienne a imaginé cela comme une porte de sortie de la crise et les Chiliens ont suivi. Aujourd'hui, en 2023, le pays est toujours empêtré dans la rédaction de la nouvelle constitution.
Alors pourquoi ce va-et-vient?
C'est comme un mouvement de balançoire, en effet. Un coup, c'est la gauche de Boric, un coup, c'est la droite de Katz. Pour cette élection, celle de dimanche dernier, les experts que nous avons interviewés à la rédaction en espagnol de RFI soulignent les raisons qui expliquent la victoire sans appel de l'opposition de droite, l'extrême droite et la droite traditionnelle donc. D'un côté, une campagne axée sur des questions conjoncturelles, en particulier l'immigration, la violence. Par exemple, les règlements de compte liés au trafic de drogue se multiplient, ce qui est nouveau pour la société chilienne. Dire non au projet de constitution était pour beaucoup une façon d'exprimer leur mécontentement envers le gouvernement, tenu responsable de cette situation. Et puis le souvenir du test qui comportait des mesures jugées extrémistes par certains, comme le droit à l'avortement, la justice indigène et moins de pouvoir pour le Sénat.
Est-ce que le scénario catastrophe qui se profile pour Boric est donc celui-là?
Et le président de gauche rêve d'une nouvelle constitution à l'occasion du cinquantenaire de la dictature de Pinochet, 1973-2023. Imaginez changer la constitution héritée de la dictature cette année grâce à un président progressiste de transition. Ce rêve semble pourtant compromis. Quoique, nous avons interviewé un spécialiste qui n'est pas si pessimiste que ça. Il s'agit de Javier Couso, professeur de droit public à l'université Diego Portales du Chili.
No puede descartarse del todo que estas instituciones funcionen. En Chile los republicanos, la extrema derecha es una derecha distinta a la de Bolsonaro o a lo que fue.
¿Quelle est l'analyse de Javier Couso?
Eh bien, qu'il ne faut pas écarter la possibilité que les choses néanmoins aillent dans le bon sens. Oui, il est possible que ces élus, même étant de l'extrême droite, se montrent raisonnables et lucides et qu'ils fassent bien leur travail. Couso souligne que l'extrême droite chilienne n'est pas comme l'extrême droite brésilienne de Bolsonaro. Sa conclusion est que le Chili est en train de vivre une sorte de restauration conservatrice, comme ce fut le cas ici en France après mai 68. D'ailleurs, nous avons interviewé un journaliste de notre radio partenaire Bio Bio à Santiago, Nivaldo Mochiati. Il refuse même de parler d'extrême droite quand il s'agit de Katz. Écoutons-le.
Yo me niego a hablar de extrema derecha en Chile. Yo creo que Kast no es una persona de extrema derecha, es un ultraconservador que no es lo mismo, no es Bolsonaro. Si llega Kast al gobierno, no va a llamar a militares en retiro al gabinete.
Comment qualifie-t-il le positionnement politique de Kast?
Un ultraconservateur. La différence pour Nivaldo Mochiati, c'est que Kast respecte les institutions. S'il arrive au pouvoir, il ne va pas très probablement gouverner avec des militaires, que ce soit des militaires à la retraite ou en service, comme ce fut le cas de Bolsonaro au Brésil. Mochiati pense aussi que Kast peut se montrer raisonnable, car il en va de ses ambitions de devenir président du Chili.
Et concernant la restauration, on va dire conservatrice au Chili, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Nivaldo Mochiati n'écarte pas cette possibilité, mais souligne que ce genre de mouvement ne dure pas longtemps. Il s'épuise vite. Pour lui, le grand défi des politiciens dans les deux camps est d'arriver à construire des majorités pour mener à bien des réformes profondes. Et cela est difficile partout, en Amérique du Sud comme ailleurs.
Asbel Lopez de la rédaction espagnole, hispanophone de Radio France Internationale. À présent, dans Accent du Monde, les relations entre la Chine et l'Europe. En considérant que le ministre chinois des Affaires étrangères était en Europe ces derniers jours, Qin Gang s'est rendu dans trois pays européens. Hermine Rumilac, que faut-il penser de cette visite dans le contexte de la guerre en Ukraine ?
Alors, cette visite de M. Qin Gang s'est fait suite aux visites de plusieurs dirigeants occidentaux en Chine, dont le chancelier allemand, le président français et la ministre des Affaires étrangères allemande. Donc, elle intervient, comme vous dites, également, notamment en pleine guerre en Ukraine et après surtout le premier appel téléphonique du président chinois avec le président ukrainien Zelensky à la fin du mois d'avril. Ce qui suscite bien évidemment des attentes pour savoir si M. Qin Gang est venu apporter des nouvelles initiatives à la résolution de la crise ukrainienne.
Et du côté chinois qui a toujours prétendu être neutre, il y a un autre calcul ?
Oui, en effet, pour parler de cela, il faut voir un peu plus loin de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, les relations entre la Chine et les États-Unis sont très tendus depuis que le président Trump a lancé une guerre commerciale avec Pékin. Il y a eu au début l'année dernière, en novembre, un début de dégel au sommet de G20, mais l'affaire de ballons espions chinois dans l'espace aérien américain a stoppé toutes les initiatives de rapprochement. Les États-Unis ont renforcé en même temps les alliances dans la région Indo-Pacifique avec des pays voisins de la Chine comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et j'en passe. Et les relations entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, si on peut les considérer comme un triangle, la position de l'Europe se trouve toujours un lien très fort des relations entre la Chine et les États-Unis, comme explique un professeur de l'université de Cergy-Pontoise, Sorbonne, M. Zhang Lun, que j'ai interviewé.
Que vous a dit ce professeur ?
Alors, il a dit, dans le contexte du grand jeu américain, Pékin veut tirer le plus possible sur l'Europe, sur la France notamment, pour pouvoir creuser un fossé entre l'Europe et les États-Unis. Et de la même manière, l'Europe veut faire la même chose entre la Chine et la Russie. Donc, chaque partie a ses propres besoins et ses intérêts respectifs.
Les États-Unis ont des alliés dans la région de l'Indo-Pacifique. Pékin a une amitié sans limite avec Moscou. Alors comment expliquer que la Chine pourrait être un médiateur dans
oui,
ce conflit.
Justement, il y a beaucoup de doutes sur cette question puisque la Chine répète qu'elle n'est pas concernée par cette crise sans jamais désigner bien sûr que c'est une guerre, encore moins de l'agression de la Russie vers l'Ukraine. On se rappelle aussi des propos de l'ambassadeur chinois en France qui a douté de la légitimité et de souveraineté des pays membres de l'ex-URSS, dont l'Ukraine. Donc l'Allemagne a mis en doute pendant cette visite de M. Qin en Europe, la neutralité prétendue de la Chine et considère que la neutralité aide la Russie. Et la France souhaiterait aussi que la Chine dise à son allié russe qu'elle est désormais dans une impasse. Donc la situation actuelle est plus paradoxale. En fait, on compte peut-être en vain que Pékin puisse jouer un rôle pour la paix, mais le dirigeant chinois Xi Jinping est toujours considéré comme la seule personne capable de faire pression sur Poutine.
Et si la Chine hésite à faire pression sur la Russie, c'est qu'elle a peut-être du... un profit, finalement, oui. quelque chose à tirer, un bénéfice à tirer de cette guerre.
Tout à fait. D'abord, économique, parce que quand les Européens ont quitté la Russie, maintenant la Chine prend, entre dans le marché en russe, donc il y a beaucoup d'affaires à faire. Ensuite, la guerre a coûté très cher en Occidentaux et pour les Américains, et la Russie devient de plus en plus faible. C'est pas mal d'avoir un voisin qui vient du Nord qui est de plus en plus faible, n'est-ce pas? Et puis aussi, en même temps, la Chine ne veut pas que la Russie perde, parce que la Russie perd, c'est-à-dire il perd un allié dans son camp face à l'Occident. Et pour résumer, en fait, la Chine se trouve également dans une position délicate. C'est la raison pour laquelle la Chine est devenue beaucoup plus active en ce moment pour jouer ce rôle de médiateur. Je note que lundi prochain, un envoyé spécial de Chine va passer par l'Europe, l'Ukraine et la Russie pour essayer de négocier un plan de paix avec les autres pays.
Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Il s'agit de l'ambassadeur chinois Li Hui.
Oui, c'est ça.
Et c'était Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. C'était Accent du Monde, réalisé par Jean-Philippe Thury.